Bienvenue sur Cambium, le podcast de l'agroforesterie.
L'agroforesterie, le terme est nouveau, les pratiques sont aussi vieilles que l'agriculture.
C'est un système qui est intensif en production de ressources, qui peuvent être alimentaires ou non, et finalement qui permet d'optimiser l'usage de ressources naturelles.
L'agroforesterie, c'est remettre en interaction les arbres, les sols, les animaux, et rassembler les acteurs de l'agriculture et de l'environnement.
Pour sortir de la dépendance au pétrole, pour accroître la productivité alimentaire, pour contribuer à la régulation climatique, l'agriculture a une arme puissante, c'est l'agroforesterie.
Faire de l'arbre un allié de notre agriculture, c'est le principe de l'agroforesterie. Au travers de ce podcast, suivez Étienne lors de ses rencontres avec ceux qui la mettent en pratique au quotidien. Cette émission vous est proposée par l'Association française d'agroforesterie. Bonne écoute!
Bonjour Sylvain, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Étienne.
Pour commencer, peut-être que tu peux nous donner un peu de contexte sur la ferme et ton histoire.
Alors, la ferme Plaine de Vie se situe dans le département de la Somme. Et on est une petite ferme de 42 hectares. Aujourd'hui, je suis associé avec ma sœur Inès. C'est une ferme familiale où mon grand-père et mon père se sont succédés, qui étaient en grande culture, enfin en élevage historiquement et grande culture, jusqu'en 2009 où mon père a converti la ferme en agriculture biologique, simultanément avec l'installation de ma sœur qui aujourd'hui transforme de la farine, enfin transforme du blé en farine et pain et pâte sur le corps de ferme. Et est venue ensuite mon installation en 2015 suite au départ de notre papa. Donc aujourd'hui, c'est une ferme, on peut dire, polyculture-élevage avec principalement la culture du blé, hein, qui est un peu le pilier de l'exploitation, le blé tendre. Et puis après divers céréales comme le seigle, des lentilles vertes, de l'orge, du sarrasin, du tournesol, enfin au final c'est toutes des cultures qui peuvent être transformées ensuite à la ferme. Et puis on a un petit troupeau d'une trentaine de brebis viande, donc pour la production d'agneaux. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à deux, on a des plannings bien chargés. Moi, principalement, je m'occupe du côté production, donc production de culture et élevage. Ma sœur s'occupe du côté transformation et vente. On se répartit grossièrement les tâches de cette manière-là. À savoir que c'est vrai que toutes les cultures, la diversité de cultures est très importante sur notre rotation sur nos rotations en bio, mais le revers de la médaille, c'est vrai que ça demande pas mal de travail, quoi. Et puis il y a le côté élevage aussi, donc c'est vrai que ça demande aussi du travail. Les animaux sont essentiellement en pâturage toute l'année, hormis deux à trois mois d'hivernage pour l'agnelage essentiellement, hein, parce qu'on a des terres on a des très bonnes terres profondes, limoneuses. On se situe sur un plateau limoneux, où il y a beaucoup de cultures industrielles chez nous. Donc c'est vrai qu'on est un peu atypique pour la région, parce que on fait beaucoup de céréales nos voisins agriculteurs font plutôt des cultures industrielles comme de la pomme de terre et de la betterave et des légumes. Donc de là est venue aussi l'idée, la volonté de planter des arbres. En 2009, c'est mon père qui a initié la plantation d'arbres et de haies chez nous. C'est vrai que il y avait une volonté déjà d'apporter de la biodiversité, puisqu'aujourd'hui, à l'époque, c'était une plaine sans aucun arbre. Enfin, chez nous, c'est vraiment très plat. On voyait à 10 km aux alentours, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un paysage beaucoup plus bocager. Donc en 2009, mon père, 2009-2010, a commencé à planter des arbres essentiellement autour des parcelles. On a un parcellaire, nous, qui est groupé. On a la chance d'avoir un parcellaire très groupé. On a deux îlots de 20 hectares, grosso modo. Et du coup, c'est vrai que ça facilite beaucoup l'implantation de haies et d'arbres. De ce côté-là, c'est vrai que c'est favorable. Il a commencé à faire planter 7-8 km de haies autour des parcelles. Aussi en intraparcellaire, puisque l'objectif, c'était vraiment d'apporter de la biodiversité, mais également de faire des barrières, disons, éviter des éventuelles dérives phytosanitaires, puisque on a des voisins qui sont conventionnels et qu'ils fassent attention ou pas, ça peut arriver. Donc la volonté, c'était aussi de se protéger en mettant des haies qui poussaient assez vite autour des parcelles. Il y avait aussi une volonté de production de bois, hein, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à être autonome en bois de chauffage pour le four à pain, puisque le four est au bois. Et occasionnellement, on peut en acheter si on n'arrive pas à faire la soudure, mais c'est vrai que on arrive à une autonomie quand même, qui pour nous, enfin, c'est important aussi d'avoir un cercle un peu vertueux et sans tomber dans l'autarcie du tout, hein. C'est le côté autonomie, c'est vrai qu'on y est attaché. On a aussi une chaudière à plaquettes bois, donc qui a été installée par mon père sur la ferme en 2010. Et c'est vrai que les haies, toutes les issues de taille, que ce soit de la taille de formation, de la taille d'élagage ou de la taille en têtard, c'est vrai que ça nous permet d'être autonome aujourd'hui pour la chaudière à plaquettes qui chauffe la maison de la ferme, qui chauffe la boulangerie et puis le bureau de la ferme également. Donc c'est vrai que l'agroforesterie, les arbres nous permettent tout ça en fait, d'accéder à une certaine autonomie. Ça nous conforte beaucoup de plus en plus, parce qu'on voit le coût de l'énergie qui est de plus en plus important, et du coup je pense qu'on a fait le bon choix, a été fait de ce côté là quoi.
Tu as mentionné au début 8 km de haies plantées. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'image de la ferme sur ces deux îlots de 20 hectares?
Ouais, c'est vrai que j'ai peut-être été trop vite, mais aujourd'hui, si la ferme, c'est deux îlots de 20 hectares qui sont côte-côte, juste traversés par une petite route. Vous avez de l'agroforesterie intraparcellaire qui représente environ 10 km de haies. Ça fait donc une première des premières plantations en 2009 qui ont été plus typées bocagères, pas forcément avec beaucoup d'essence, comment dire, plutôt de CP et arbustive, moins de OG. Une deuxième série de plantations qui a été faite en 2012, donc là avec beaucoup plus d'arbres OG, d'arbres de valeur. C'est vrai que là l'objectif, il a été un deuxième objectif, ça a été de produire notamment du bois d'œuvre, enfin du bois un peu plus valorisable quoi.
Donc est-ce que les espèces arbustives, c'était les plantations haies au début et les OG en intraparcellaire? Ou est-ce que en fait finalement il y a un peu des deux, il n'y a pas cette distinction?
En fait, on a fait le choix de faire un mélange. On a choisi d'alterner, disons, enfin plus précisément d'accompagner chaque OG par un arbuste à droite et à gauche. L'idée, c'est de gainer un arbre naturellement par de l'arbuste de chaque côté, si tu veux. Donc, par exemple, un noyer peut être accompagné à 1,50 m d'un sureau et à 1,50 m de l'autre côté ou 2 m de l'autre côté d'un petit noisetier, par exemple. Et notre objectif, ça a été de chercher un espèce de gainage pour éviter d'avoir trop à tailler, parce qu'on sait très bien qu'un tronc, un tronc d'arbre, plus il a de lumière, plus il fait de branches latérales. Donc voilà, c'était notre principal objectif.
Du coup, les plantations intraparcellaires, finalement, ça ressemble à une haie, en fait. Enfin, si on doit l'imaginer, c'est... Vous avez redécoupé les parcelles, peut-être, par contre, en laissant à l'extrémité de la place pour pouvoir faire des demi-tours en machine. Mais si on regardait cette ligne d'intraparcellaire, c'est une haie.
Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est nos plantations d'arbres ont tout l'aspect du visuel d'une haie, que ce soit les premières qui ont été plantées tous les mètres avec des arbustes et de temps en temps des ogées, et que ce soit les dernières qui ont été plantées tous les 6 mètres avec un auger, mais intercalé par un arbuste entre chaque auger, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des parcelles qui sont divisées, enfin si tu veux, on a un îlot de 20 hectares qui est divisé en 10 parcelles par les haies. Donc ça fait à peu près des haies de 500 mètres de long. Et puis bien sûr, au bout, on a 10-12 mètres libres pour les manœuvres des tracteurs.
Et puisqu'on est sur le thème des OG, du coup, vous avez eu un premier retour là-dessus, notamment sur la taille de formation, est-ce que c'était facile de le faire, quel retour un peu, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de produire du bois de haute qualité dans des plantations agroforestières où effectivement il y a beaucoup plus de lumière.
C'est ça, en fait, c'est vrai que la taille de formation sur les OG, ça représente du temps, et ça c'est quelque chose qui n'a pas forcément été prévu. Enfin, je pense qu'on a sous-estimé le temps de travail pour vraiment avoir des arbres formés et intervenir à temps, parce que c'est vrai qu'on a des terres qui sont fertiles, des arbres qui poussent vite. Et du coup, pour certaines essences, on s'aperçoit maintenant qu'il aurait fallu passer 2 fois par an en taillant un peu moins, quoi. Pense au merisier, par exemple, c'est un arbre qui pousse très vite chez nous. L'aulne aussi, c'est des essences qui ont des croissances tellement rapides qu'il aurait fallu, passer 2 fois par an, mais à chaque fois couper des plus petites branches. Mais on s'aperçoit aussi que les arbres, ces arbres de OG qui se sont retrouvés avec beaucoup de bourrage autour d'eux, on s'aperçoit que ceux-là, ils ont demandé un peu moins de travail et pour le même résultat. Donc la leçon à en tirer, c'est que pour moi, un arbre, si on veut avoir moins de travail dessus, il faut l'accompagner d'arbustes, et on appelle ça du bourrage. Ça veut dire que il doit être assez resserré et rapproché des autres.
Et donc peut-être que tu en as mentionné quelques-unes. Peut-être tu peux nous faire un peu un tour des essences que vous avez implantées pour le OG et même dans la haie en général.
Pour le OG, on a une quinzaine d'essences. On a de la lisier, de l'aulne cordata. L'aulne cordata, il est présent surtout en périphérie des parcelles, parce que lui, il pousse vite et il fait vite barrière. Il fait très vite un écran, une haie brise-vent, en fait. On a des charmes, des châtaigniers, des chênes, des érables, du frêne, merisier, noyer, on a des ormes, des poiriers communs, des pommiers communs, on a des tilleuls. Voilà, à peu près, les OG, ça représente ça, à peu près. C'est vrai que Notre volonté, c'était aussi de diversifier au maximum. On sait bien qu'une maladie, ça peut arriver, et on se met un peu à l'abri de tout ça en diversifiant, quoi.
Et pour la valorisation de ce bois, vous avez quoi comme idée pour le moment ? Enfin, je sais que c'est pas tout de suite, mais dans l'idée, ce serait, ce serait de le valoriser déjà comment, et puis surtout un peu sur quel horizon de temps, quoi. Parce que je comprends que vous avez des sols très poussants, donc peut-être ça peut être un peu plus tôt que ce qu'on attend dans d'autres régions.
Ouais, alors pour la valorisation, c'est vrai qu'aujourd'hui on le valorise essentiellement en bois de chauffage, hein, que ce soit le bois bûche pour le four à pain et les plaquettes pour le chauffage. Donc c'est aujourd'hui en termes de temps de travail, c'est déjà pas mal. Moi j'estime à peu près une personne seule. Il passe à peu près entre 10 et 15 jours par an. Donc c'est vrai que ça représente déjà du temps. Notre objectif, on a des réflexions, hein, sur la valorisation, d'autres valorisations du bois. Donc on aura un volume de biomasse à terme qu'il faudra gérer parce que ça pousse vite. Une haie empiète vite sur les cultures. Donc c'est vrai qu'au moment des travaux des sols, c'est pas toujours évident d'approcher la haie, même si au final la haie est accompagnée de 2,50 m de chaque côté d'une bande enherbée. Donc on lui laisse beaucoup de place, mais malgré ça, c'est vrai qu'on peut être vite gêné par les branches. Donc la réflexion, moi, elle est plutôt de valoriser en interne les branches, puisque j'ai pas forcément envie de l'exporter du système, en fait. Et puis pour l'exporter, il faudrait un moyen de stocker, un moyen de calibrer un peu mieux les plaquettes. Et mon choix serait plutôt sur de l'épandage de BRF. Au final, c'est vrai qu'on a possibilité, hein, de faire ça. Ça demanderait peu de transport aussi.
Est-ce que vous avez des voisins éleveurs qui pourraient être intéressés par de la litière en plaquettes, ou est-ce que finalement c'est des régions de grande culture où il y a très peu d'élevage qui reste?
Non, aujourd'hui il y a très peu d'élevage, et c'est des gens qui fonctionnent avec de la paille. Enfin, c'est tous, ils sont tous en polyculture élevage, et du coup, eux, ils ont un système qui est rodé avec de la paille en autonomie, quoi. Donc après, ça peut être aussi un privé, hein, qui aurait besoin de plaquettes. Ça, on a plutôt un système fait pour. On rechercherait pas à fournir une grosse chaufferie, par exemple. Je pense que là, c'est différent. Il faut du volume déjà. Il faut un calibrage un peu plus précis.
En tout cas, je note que pour le moment, c'est surtout autour de la valorisation à travers la plaquette. Il n'y a pas tellement l'idée de se dire il y aura des pièces de bois qui seront suffisamment formées et en volume suffisant pour que ce soit valorisé comme du bois d'œuvre, ou enfin.
Si la valorisation bois d'œuvre, elle est en réflexion, mais je pense que ce sera du plus petit volume. Aujourd'hui, le bois, c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé à la ferme. Enfin, historiquement, c'est vrai que mon père travaille beaucoup le bois. Moi, un petit peu, mais moins depuis que je suis installé. L'idée, ce serait plus éventuellement d'investir dans une scie à grume, hein, puisque ce sera à chaque fois des petites quantités. Ce sera 3-4 merisiers, quelques aulnes. On a toujours besoin, en fait, sur une ferme, on se rend compte qu'on a toujours besoin de bois, de construction, de bois de bardage. On peut aussi atteindre une certaine autonomie, si on veut, en étant équipé d'une scie à grume. C'est vrai que c'est une réflexion, mais pour l'instant, elle n'est pas à court terme, quoi.
Juste avant, tu mentionnais 10 à 15 jours de travail. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les tâches impliquées dans la valorisation et un peu le processus de A jusqu'à Z, avec si possible une idée du temps de travail qu'il y a derrière et du matériel que tu utilises.
Aujourd'hui, l'essentiel du travail sur les haies, c'est la taille. Donc moi, j'ai fait le choix de tailler à la tronçonneuse, avec une petite tronçonneuse, donc les arbres, tout ce qui était accessible, enfin à hauteur. Et puis je fais aussi un peu de taille de formation avec une scie à main sur perche. Mais ça, c'est pas ce qui représente le plus de temps aujourd'hui. Moi, après récolte, je fonctionne un peu selon la disponibilité de la parcelle. Si tu veux, on a des cultures, tout ce qui est printemps jusqu'à la moisson, on a on a pour ainsi dire rien de libre, d'accessible. Donc dès que la moisson est faite, je vais pouvoir faire quelques tailles, vraiment les arbres qui ont beaucoup poussé ou les arbres qui ont cassé. Et puis courant l'hiver, ce qui est libre, bien sûr en hiver, je vais pouvoir faire de la taille. Je fais beaucoup de recépage depuis 2 ans. Je peux avoir une rotation de deux linéaires de haies, donc 2 fois 500 mètres tous les ans. Je peux recéper à peu près ce volume là bien sûr pas une coupe, je coupe pas tout, mais je coupe tout ce qui est arbustif, et une partie en recépage, une partie en têtard. Et puis je peux avoir pour ainsi dire un plan de gestion, hein, de retourner sur la même haie tous les 10-15 ans. Au final, je peux avoir une rotation en fait de récolte comme ça. Et cette taille-là hivernale peut m'apporter aujourd'hui, j'ai commencé depuis l'an dernier, donc j'ai pas beaucoup de recul, mais peut m'apporter à peu près 20 stères de bois, bûches, et à peu près 50 mètres cubes de plaquettes. Donc c'est vrai que si je peux faire ça tous les ans, l'autonomie, elle est atteinte. L'autonomie en bois pour la ferme est atteinte. Donc c'est vrai que ça, concrètement, il faut commencer par tailler, tronçonneuse. Ensuite, on range les branches toutes dans le même ordre pour qu'elles soient prêtes à mettre dans un broyeur. On est équipé d'un broyeur à la ferme. Notre broyeur peut accepter jusqu'à 17 cm de diamètre. Donc toutes les branches qui peuvent passer dans le broyeur sont rangées toutes dans le même ordre, prêtes à mettre dedans. Et le jour J, le jour de broyage, il nous faut pour bien, il faut être à 2-3 personnes. Et puis donc on a c'est mon père à l'époque, hein, qui avait aménagé ça, c'est-à-dire que un tracteur tire un broyeur, le broyeur et la remorque derrière, donc il y a besoin que d'un tracteur pour faire l'opération. Donc ça nous permet d'avoir un peu moins de véhicules qui naviguent en plaine, hein, parce que l'hiver c'est des fois un peu gras. Aujourd'hui, moi, sur une haie qui fait 500 mètres de long, je vais recéper ou faire du têtard sur un arbre sur 5 peut-être. Là, je parle des haies qui ont été plantées tous les mètres. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'arbustes. Donc il y a du volume, quoi. Il y a de la biomasse. Là, on peut toucher à un arbre sur 5. Voire des fois on touche pas à rien sur 10-20 mètres de long, parce que au final il n'y a pas à tailler, quoi. Donc la taille plus le rangement des branches plus le broyage et la mise en tas, ça peut représenter mis bout à bout, il y a facile une semaine de travail, quoi.
Et donc, juste pour comprendre, donc t'as un cycle. En gros, si je résume, t'as un cycle où t'es vraiment sur une logique de récolte de biomasse. Donc ça, c'est la rotation dont tu parlais. On va dire que tu fais 2 fois 500 mètres, et là, tu vas vraiment être en train de récolter. Et après, tu as la gestion un peu du reste, où là, c'est ce qui dépasse, ce qui est en train de pousser trop vite, et tu es plutôt en mode, je prélève le minimum pour que je puisse continuer à circuler tranquille avec mon tracteur, et pour que les arbres qui se développent bien, quoi. C'est à peu près ça.
Voilà, ouais. C'est ça. En fait, on n'a pas fait le choix de tailler comme beaucoup à l'épareuse ou au lamier pour avoir des haies carrées, quoi, taillées au carré sur les côtés. On fait le choix de laisser les arbres le plus possible faire leurs branches. Surtout les arbustes au final, parce qu'on sait très bien qu'au niveau biodiversité, ça compte beaucoup. Donc c'est vrai que la haie, elle est large au final. Mais néanmoins, il m'arrive de refaire des tailles ponctuelles comme ça au mois de septembre, parce qu'au mois de septembre, c'est une période où les terres sont accessibles au final. Donc j'ai une deuxième... petite récolte à l'automne, comme ça, avant d'implanter les cultures d'hiver.
Donc du coup, vous avez fait le choix d'acheter un broyeur plutôt que de faire par un prestataire. Parce que c'est vrai que souvent, on voit plutôt les gros chantiers, il y a une personne qui vient avec du très gros matériel.
En fait, le choix du broyeur, ça a été parce que on a des petits volumes. Et on n'est pas une région où en 2010 il y avait des broyeurs comme ça comme il peut y avoir aujourd'hui. C'est vrai que le contexte il était différent et il a fallu s'équiper parce que sinon faire venir quelqu'un à l'époque c'était pas faisable vu le faible volume qu'on avait, quoi. Être équipé, ça nous permet de aussi broyer, on peut broyer que pendant, enfin, on peut faire 5 mètres cubes seulement, quoi. C'est vrai que moi, après moisson, j'ai des fois besoin, au mois de septembre, de tailler un linéaire, mais faire que les branches qui dépassent de la bande enherbée. Du coup, faire venir un broyeur pour ça, c'est vrai que c'était pas forcément justifié, quoi.
Tout à l'heure, tu disais, il y a une grande partie que tu recèpes sur les parties, sur les linéaires récoltes, on va dire. Il y a une partie que tu recèpes, une partie que tu laisses en trogne. Ce choix de laisser certains arbustes en trogne, comment tu l'expliques et puis comment tu choisis les arbres que tu laisses plutôt, on va dire, en tétard, comme tu disais. Par rapport à ce que tu vas recéper.
Je fais des trognes essentiellement sur tout ce qui est charme, les choses qui réagissent bien en fait à la trogne. Et par exemple un noisetier, j'aurais plus tendance à faire du recépage, mais c'est pas définitif, quoi. Ça m'arrive de faire aussi des noisetiers en tétard. Je fais un peu aussi selon la forme de l'arbre initial, enfin la forme de l'arbuste. Au final, c'est vraiment du cas par cas. Enfin, on s'aperçoit que c'est quand on se retrouve au pied de l'arbre à tailler, c'est là qu'on prend la décision. Il n'y a pas de choses préétablies pour tout le monde.
Mais le choix du tétard, c'est parce que ça correspond mieux à la physiologie de l'arbre, enfin je sais pas si on peut dire physiologie, mais à la forme de l'arbre pour la production de biomasse, ou est-ce que c'est la volonté aussi de laisser quand même, je sais pas, des troncs plus hauts pour la biodiversité ou pour continuer à offrir un abri. Enfin, qu'est-ce qui te motive à faire du tétard et pas juste de recéper l'intégralité des arbustes?
Ce qui est motivant dans le tétard, c'est il y a plusieurs choses, c'est le côté pratique. c'est vrai que recéper, voilà, faut être au niveau du sol. C'est pas toujours évident d'accéder au pied d'une souche de noisetier. On peut abîmer le matériel. C'est pas toujours très pratique. Et après, je m'aperçois au fil du temps que le recépage a tendance à faire des souches très larges et du coup pas forcément facile à gérer dans le temps. Enfin, donc par exemple, un noisetier qui est recépé, la souche va avoir tendance à s'élargir au fil du temps. Tandis que s'il est fait en têtard, il va plus être réduit latéralement et puis la taille va être facilitée, je trouve. C'est vrai que au niveau manip, je trouve qu'un têtard est beaucoup plus accessible, quoi. Sachant que moi, je fais les têtards pas très haut, hein. J'ai pas des animaux qui sont très grands, j'ai pas de bovins. Les jeunes pousses des têtards sont toutes protégées des animaux, quoi. Donc c'est vrai que le têtard a un côté très pratique pour ça, quoi.
Et le têtard, en fait, donc la première fois que tu interviens sur l'arbre, c'est-à-dire qu'il a poussé pendant combien d'années avant le moment où tu dis là j'en fais un têtard, quoi.
Je fais des têtards sur des arbres qui sont pas trop gros parce que c'est vrai que tout ce qui a été taillé, enfin tout ce qui a été planté en 2009-2010, il y a eu très peu de taille pendant 10 ans, quoi. Du coup, on se retrouve des fois face à un arbre qui est trop gros pour être mis en têtard. Donc là, je fais aussi le choix des fois de le mener, de l'élaguer, enfin de faire un élagage et puis qui continue son cycle de vie comme ça. Donc, par exemple, ça peut être entre 5 et 10 ans. C'est vrai que j'ai du mal à trogner un arbre qui a moins de 5 ans. Enfin, c'est vrai que au niveau production de bois, j'en suis pas encore là.
Tu as expliqué qu'en fait, tes haies sont assez larges. En plus, il y a une bande enherbée. Est-ce que, et puis, en fait, vous avez aussi une petite ferme en termes de superficie par rapport à ce qui peut se voir en grande culture ou voilà, ben, chaque hectare compte, on va dire. Est-ce qu'à un moment, vous avez pu avoir une réticence de se dire, bah, quand même, ça nous enlève une emprise, enfin une superficie de terre agricole importante, parce que je me rends pas compte quelle est la largeur de la bande totale, mais entre la haie, la bande enherbée, tout ça sur plusieurs dizaines de lignes, ça fait un peu de superficie. Est-ce que ça a été des discussions que vous avez eues?
Alors oui, enfin si tu veux, c'est mon père hein, qui a planté à l'époque et aujourd'hui c'est vrai qu'on s'aperçoit bien sûr hein, que si on cumule les surfaces de haies, les surfaces de bandes enherbées, on arrive je crois à 10% de notre SAU, donc c'est vrai que ça fait beaucoup pour une petite ferme comme nous, en grande culture, quoi. Mais je me focalise pas là-dessus et je me dis que ça m'apporte bien d'autres avantages au final pour pas s'attarder sur la perte de surface, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que on n'a pas encore évoqué, mais les animaux qui pâturent, qui peuvent pâturer toute l'année en plaine, c'est vrai que ce serait pas possible sans ces haies et puis ces bandes enherbées. Ça fait partie maintenant du système et c'est vraiment c'est bénéfique pour beaucoup de choses, quoi.
Alors on va venir aux animaux juste après, mais je voulais d'abord finir la partie un peu tracteur, culture, on va dire, et de comprendre, bon, alors clairement, dans le mouvement des machines, j'ai compris que voilà, il y a besoin de tailler parce que sinon on se retrouve avec des branches qui dépassent et ça peut être un problème. Est-ce que il y a d'autres manières dont l'arbre soit facilite, soit rend plus difficile ton travail, on va dire, de culture?
On a parfois besoin de travailler les terres en diagonale au final, et ça c'est vrai que ce côté-là des fois un peu gênant, quoi. Mais on a aussi l'autre îlot où les haies sont espacées entre 90 et 100 mètres. Donc là c'est pas gênant, quoi. Après les parcellaires comme ça découpées font aussi facilitent un peu la gestion de la rotation. C'est vrai qu'on a maintenant on fonctionne par parcelle. Si tu veux, c'est comme si nos parcelles étaient figées en fait, et par que ce soit une haie ou on pourrait avoir en tête que c'est une parcelle entourée d'un voisin, quoi. Au final, la parcelle est figée un peu. Et puis on fonctionne par parcelle dans les rotations. Donc c'est vrai qu'on a on a une base comme ça de travail qui nous facilite un peu les choses. Après, moi, ça me facilite beaucoup la tâche pour les clôtures mobiles des animaux. C'est vrai que je fonctionne en fil, enfin deux fils électriques. Du coup, j'ai les parcelles qui sont presque, enfin qui sont déjà découpées, et j'ai plus que des fils à mettre. Les bêtes sont pas tentées de passer les fils puisque de l'autre côté c'est une haie. Et en plus, enfin ça leur apporte ombrage et abri l'hiver. Enfin c'est vraiment pour le côté élevage, c'est très très positif.
On a parlé des branches, mais est-ce que tu as pu remarquer des problèmes, enfin liés plutôt aux racines qui, voilà, viennent chercher l'eau et les nutriments du côté des cultures. Donc voilà, une question sur le côté racines et éventuellement compétition, et puis aussi une question un peu sur le côté entre guillemets salissement, on va dire, depuis l'abandon herbé, ou voilà un petit peu ce côté bordure qui est pas toujours évident.
Les racines, on voit, hein, on voit clairement que elles sont en compétition localement avec les cultures. Mais j'ai essayé de faire un peu le tour et de me dire, bah tiens, quel arbre a le plus d'impact, parce que on voit des vagues, hein, en bordure de haies, en bordure de parcelles. On voit beaucoup de vagues au printemps, du blé qui est tout petit, des fois du blé même qui est plus haut. Au final, donc on voit la compétition vis-à-vis de l'eau, on voit la compétition vis-à-vis des nutriments aussi, mais j'ai pas vraiment trouvé de conclusion à dire tel arbre est très compétitif, tel arbre est très positif. Ça dépend beaucoup des endroits et des cultures et des années, de la météo. Enfin, il y a tellement de paramètres que c'est pas facile de tirer une conclusion. Mais en tout cas, on voit que quand il y a des baisses de végétation sur la culture, des baisses de rendement aussi, hein, parce que en moissonnant, on voit très bien où c'est clair et où c'est moins clair. C'est trop très local, quoi. Ça s'arrête à 2 mètres de la bordure et ça va pas beaucoup plus loin au final. Ça reste cantonné à la bordure.
En conclusion de toute cette discussion, on va dire sur la culture et cultiver la terre avec les arbres, est-ce que maintenant que tu as ce retour, tu garderais les mêmes, on va dire la même organisation que ce qui a été planté avant? Est-ce que tu finalement tirais sur des lignes un peu plus larges? Enfin, si c'était à refaire aujourd'hui, ou si tu devais discuter avec quelqu'un qui se lance dans un projet similaire, qu'est-ce que tu conseillerais pour garder les bénéfices en limitant les contraintes, on va dire?
Bah, aujourd'hui, moi, c'est vrai qu'avec le recul, on changerait pas grand-chose, hormis certaines essences qui peuvent être un peu envahissantes. Je pense à l'acacia, pense à tout ce qui est épineux. C'est vrai que par endroit, on a du prunelier, on a des choses qui sont pas faciles à gérer et qui peuvent vite, dès qu'on y touche, dès qu'on taille un peu, exploser, quoi. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé de voir des acacias pousser à 5 mètres de la 5, 6, 8 mètres de la haie dans les cultures, et c'est vrai que là on se pose un peu question, quoi. Il y a certaines essences comme ça, je pense aussi au cerisier Sainte-Lucie. C'est vrai que lui, il a une pousse, il pousse bien, il se plaît bien, mais il pousse latéralement, et c'est vrai que nous on recherche plutôt l'inverse, quoi. Il fait beaucoup de branches latérales, et la plupart du temps, dans une culture, on est gêné par l'acacia et le cerisier Sainte-Lucie.
Venons-en enfin à l'élevage, parce que ça fait plusieurs fois que je t'empêche de développer ça. Non, mais en fait, peut-être explique-nous un petit peu justement ton système avec les brebis, et puis comment elles interagissent avec les arbres à travers les saisons.
Les bêtes, donc le troupeau de brebis, essentiellement en pâturage. L'hiver, elle rentre à peu près au mois de janvier en bergerie. On a des terres qui sont pas forcément très portantes l'hiver. Du coup, je les rentre, c'est plutôt par souci de piétinement, en fait, quand il se met à pleuvoir beaucoup et que les sols sont gorgés d'eau. Je préfère préserver les sols et les rentrer. Aussi pour l'agnelage, hein, avoir un agnelage en intérieur, c'est plus confortable. Et puis, donc elles ressortent, il y a une mise à l'herbe fin mars, début avril. Elles commencent par le pâturage du verger, du pré-verger, pour ensuite aller pâturer une prairie temporaire au fil électrique, en fait. Donc là, c'est vrai que on a tout ce qu'il faut sur place. Moi, je mets les fils. Elles ont accès à une haie. Elles ont, je leur mets un point d'eau. Donc, au niveau confort, ça va. Il y a ce qu'il faut sur place. Il y a de l'ombre, il y a de l'abri. Et puis l'été, les brebis pâturent sur des espaces naturels du conservatoire. Donc là, c'est pas moi qui m'occupe des clôtures. C'est une association en fait, hein, qui s'occupe des clôtures. Et puis il faut aller surveiller les animaux. Donc là, c'est uniquement les brebis sevrées, on va dire. Et puis elles reviennent fin d'été, où là elles repassent dans une, soit dans le pré-verger, soit dans les prairies permanentes. Donc entre temps, j'ai les agneaux, Agnelle et agneaux qui sont restés sur la ferme. Eux, ils ont une prairie temporaire pour avoir des belles croissances. Et puis retour des bêtes du troupeau brebis à l'automne. Là, elles sont donc pré-vergées ou prairies temporaires. Et puis je sème toujours un couvert végétal, couvert hivernal, hein, après céréales, entre une céréale et une culture de printemps. Du coup, elle passe l'automne et l'hiver en pleine, sur un couvert végétal.
Et le pré-verger, c'est quelque chose qui avait été planté dans cet esprit d'être pâturé? Ou est-ce que c'est un verger qui était préexistant, que vous avez juste commencé à faire pâturer?
Bah, le pré-verger, il a été planté en même temps que les haies, à peu près en 2009-2010. L'objectif, c'était production de poires et production de pommes et pâturage. Donc c'est vrai que les deux faisaient partie du projet déjà. Donc on a des arbres qui ont été greffés à 2 mètres et du coup on n'a aucun problème pour le pâturage.
Et la protection des arbres ou quoi que ce soit, ça n'a jamais causé souci finalement? Ça n'a jamais été une contrainte plus que ça?
Non, on met un corset métallique à chaque arbre et du coup le tronc de l'arbre est protégé. Après les animaux, même si c'est des brebis, elles taillent quand même. Toutes les branches basses sont taillées, hein, mais bon, ça fait pas trop de dégâts. Hein.
Est-ce que, au-delà de trouver de l'abri, de l'ombre, etc., est-ce que les brebis consomment aussi des essences dans les haies? Est-ce que ça représente une partie de fourrage significative?
Ouais, les brebis ont accès aux haies en pleine. Essentiellement l'hiver, parce que au printemps elles ont tendance à faire un peu plus de dégâts, à manger un peu plus d'écorce, je trouve, au printemps. L'hiver, je leur donne accès aux haies pour l'abri essentiellement. Bah en fait elles pâturent tout ce qui est accessible au final, donc c'est vrai que ça me facilite la tâche aussi pour tailler les arbres par la suite. Donc c'est vrai que ça peut être un avantage aussi d'avoir accès visuellement en fait au pied des arbres et des arbustes si les bêtes ont pâturé, quoi. C'est vrai que ça c'est un avantage. Ouais. À l'automne, elles ont accès, donc tout ce qui est feuilles, tout y passe. Généralement, elles y sont quand il y a beaucoup d'herbes aussi, donc elles font pas de dégâts non plus. Elles pâturent les feuilles, quoi. Ça m'est arrivé de faire de la taille pour l'affouragement en verre. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a 3 ans en fait, un été très sec où Je manquais de, j'avais plus d'animaux, j'avais plus de brebis que ça, et du coup, je pense que ça m'a permis de, enfin, le fait de tailler un peu tous les jours comme ça, ça m'a permis d'affourager les bêtes au mois d'août. Mais et du coup, ça m'a permis aussi de voir que il y avait de la ressource accessible au final. Et c'est vrai que peut-être que c'est à creuser. Là, on est en réflexion pour augmenter un petit peu le cheptel. Je pense qu'il y a vraiment une possibilité d'affouragement comme ça, une ressource qu'on sous-estime, hein, donc c'est quelque chose qui est à creuser, c'est très intéressant, hein. C'est vrai que les bêtes instinctivement, moi je vois des animaux qui dès que je les mets dans une pâture et qu'elles ont accès aux feuilles, même s'il y a de la bonne herbe, généralement elles vont sur les feuilles en premier. Et du coup ça me fait un peu dire que on aurait peut-être intérêt à fourrager un peu plus avec des feuilles. Après, je pense que pour l'instant, c'est le temps et ma logistique qui n'est pas forcément cadrée là-dessus, quoi. Mais j'aimerais bien avancer un peu plus là-dessus. Ouais.
Bah juste pour conclure, peut-être que tu peux nous dire un petit peu les projets de la ferme dans le futur, ou enfin je sais pas la direction que vous prenez, que ce soit en relation avec les arbres ou non. Je sais pas s'il y a des projets à partager, pour nous donner une idée de voilà où vous allez avec tout ça. Non, je sais pas des projets nouveaux ou pas.
Nos projets, ouais, on a toujours tout un tas de projets. Après, c'est vrai que on fait attention aussi à pas se disperser. Aujourd'hui, on a beaucoup beaucoup d'activités différentes. On transforme beaucoup de choses et on est plutôt dans la réflexion. On va se concentrer sur ce qu'on fait, le faire bien. Et c'est vrai que le côté gestion de la biomasse des arbres, je pense que la valorisation elle mérite d'être un petit peu plus approfondie. On parlait tout à l'heure éventuellement d'épandage de BRF. C'est vrai que ça c'est une réflexion. Et ben voilà, valoriser ce qui est existant. On aura déjà, enfin il y a déjà beaucoup de choses à faire.
Moi, je pense que le terme projet, c'était pas le bon. Je voulais, voilà, aussi parler, on va dire, d'objectifs. Et parmi les objectifs, ça peut aussi être se simplifier la vie et voilà, optimiser son temps de travail. Enfin, ça en fait partie. C'est vrai que le terme projet, ça, c'est pas forcément le bon.
Ouais, voilà, c'est un peu un peu la recherche d'optimisation, quoi. C'est vrai que aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire, mais en optimisant un peu mieux, je pense peut les faire mieux et avec un peu plus de recul. Ouais, s'il y avait une conclusion, aujourd'hui, au bout d'une petite quinzaine d'années de recul, le projet essentiel, enfin maintenant, c'est de se dire comment je vais gérer 10 km de haies, tout en sachant que je suis pas dans une région qui est bocagère. Du coup, nous on est au milieu d'un plateau de culture et on est très isolé, enfin en termes de projet comme ça, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui l'essentiel de la réflexion, c'est comment appréhender ça, parce que il y a de la biomasse à foison, en fait. Il va falloir la gérer, quoi.
C'est un peu le problème d'être pionnier dans sa région, c'est que comme tu parlais de bocage tout à l'heure, c'est vrai que dans les régions bocagères, il y a une infrastructure, il y a des outils collectifs, des CUMA. Vous êtes un peu les premiers, mais il faut juste espérer qu'au fur et à mesure que les projets se développent, il y aura des types de projets communs qui pourront aussi se développer autour de la biomasse, quoi.
C'est ça, ouais. Dans une région bocagère, il y a une notion de filière qui est mise en place, quoi. Aujourd'hui, nous, entrer dans une filière, on est trop loin localement de voisins qui ont des projets comme ça. Donc, C'est pour ça que ma réflexion, elle est plutôt de valoriser en interne. Mais il va falloir, ça représente quand même du travail, de l'investissement. Il n'y a plus quoi.
Mais c'est très intéressant de garder ça en tête pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont un peu pionniers dans leur territoire, que le tout, c'est pas de planter, mais c'est de réfléchir aussi à la valorisation. Mais bon, c'est une ressource aussi assez extraordinaire. Et finalement, comme tu disais, enfin, moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est quand on entend ta sœur qui cuit son pain et qui, quelque part, peut écouter les prix de l'énergie à la radio en se disant que ça la concerne pas trop. Enfin, c'est déjà extraordinaire, hein, parce que les histoires de boulangers en difficulté, voilà. Super. Eh bien, merci pour ce mot de la fin.
Ben, merci à toi.
Cet épisode de Cambium est déjà terminé. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet agroforesterie.fr et sur nos réseaux sociaux. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à liker et commenter cet épisode et à le partager à vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer la suite de notre aventure. À bientôt !